Bienvenue les amis, c'est Olivier, vous êtes en direct pour une émission sur le vestiaire, sur les ondes de Choc FM 105.1. Aujourd'hui est une journée un peu super, méga spéciale parce que non seulement je reçois un auditeur très fidèle, mais en plus de ça, je reçois un ami très proche. Je reçois Rodolphe avec moi. Comment ça va, Rodolphe?
Salut Olive, salut à tout le monde. Bah écoute, tout va bien. On attend le soleil, mais sinon, tout va bien.
Ouais, c'est ça, on est bienvenue à Toronto, on va dire. Le soleil est là, on a eu de la chance en février, il a fait super beau,
Ouais,
c'est
y a
cool.
pas à se plaindre.
Et merci de te joindre à l'émission Le Vestiaire. Je sais que tu nous écoutes régulièrement.
Ouais.
D'ailleurs, tu nous écoutes quand pour la petite histoire? Je sais que tu nous écoutes en chemin pour aller à un endroit très spécial. Alors, parle-nous de ça. Quand est-ce que tu nous écoutes?
Je vous écoute quand je vais à l'entraînement dans le dôme, parce qu'on est en hiver. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que je l'écoute dans le subway, dans le TTC. Et donc, des fois, l'émission s'arrête, elle reprend à chaque station. Donc, j'essaie vraiment de. À chaque fois, je me dis, j'espère qu'on va vite arriver sur la prochaine station. Comme ça, j'ai le réseau et je peux continuer à écouter Choc FM. Donc, j'essaie d'écouter ça quand je vais à l'entraînement pour avec mes U13.
Ok, donc c'est ça, en fait. Si tu vas à ton entraînement, c'est-à-dire que t'es entraîneur, t'es coach, c'est ça?
Exactement. Je suis coach ici, donc comme ils appellent ça, le soccer ou le football pour ceux qui nous écoutent, d'une équipe de U13 depuis cet hiver. Donc avec le club qui s'appelle Toronto High Park Football Club.
Allez, un petit coup de pub pour Toronto High Park Football Club, c'est pas mal ça, les U13. Alors U13, dis-nous ça, ça veut dire quoi, U13? U13, ça veut dire catégorie d'âge, c'est ça?
Ouais, ici, c'est pas comme en France. Tu sais, en France, on dit les U14 et tout. Ici, c'est plus à année 2011. Donc ici, ils vont rappeler ça la catégorie 2011.
Donc tous les jeunes nés en 2011, c'est tes étudiants à toi pour ton soccer, c'est ça?
Ouais, exactement.
OK.
Donc ils sont nés en 2011. Ça peut être début d'année ou fin d'année et ça va être des U13. Moi, je les appelle les U13, c'est plus simple. Et donc normalement, je les suis pendant quelques années selon en fait. Combien de joueurs on va avoir dans la saison et comme si c'est divisé en deux saisons, on va parler de ça un peu plus tard, mais oui.
Ok, excellent. Alors, on va revenir à ton expérience de coach dans quelques minutes, mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Je sais que tu es un gros mordu de football, je sais que tu es un gros mordu de football d'une façon générale, tu as une petite, on va dire, un petit appétit pour le football sud-américain, et tu as une page notamment sur les réseaux sociaux que tu animes. Sur ça. Donc, parle-nous un petit peu de ta passion. Comment cette passion du football ou du soccer, elle est née chez le petit Rodolphe, pas né en 2011, mais né quand il était tout petit. C'est quoi l'histoire?
Ah, écoute, c'est assez bizarre parce que dans ma famille, il y a peu de gens qui aiment le foot en fait. Des fois, on me demande même et je me pose même à moi-même la question. Ma famille, c'était soit pas trop de sport ou alors c'était plus genre VTT, vélo sur route, volleyball. Mon père était à fond dans le volleyball, mais le foot, j'étais vraiment le seul. C'est vraiment arrivé comme ça. Je sais pas. J'ai dû voir des matchs. Je me rappelle, je crois le premier maillot de foot que je me suis acheté. Ça remonte, c'était l'AS Monaco avec Sabri Lamouchi.
Ah ouais,
Donc,
floqué, Sabri Lamouchi?
non, c'est ça la petite
Ah.
histoire. J'ai pris un marqueur et j'ai mis Lamouchi sur le maillot de l'AS Monaco.
Énorme, énorme, énorme. Donc Sabri
Donc,
Lamouchi, c'est ta vocation. C'est lui, c'est grâce à lui que tu es devenu qui tu es en tant que footballeur aujourd'hui?
peut-être, hein, je sais pas, on verra. Je sais qu'il a été entraîneur, il est toujours entraîneur. Je crois qu'il n'a pas de club en ce moment, mais écoute, peut-être dans quelques années, je rencontrerai mon premier joueur que j'ai floqué son maillot avec un marqueur noir. Je me rappelle, j'avais complètement bousillé le maillot. Donc, c'est arrivé, écoute, tout seul. J'ai pas eu de parents qui m'ont emmené à un stade ou autre. J'ai vraiment joué au foot et regardé du foot tout seul.
Donc t'es tombé dedans comme Obélix. On rappelle que quand même Sabri Lamouchi, c'est un international français qui a joué dans un certain nombre de grands clubs. Ça peut être Monaco, ça peut être en Italie. Et il a lancé, lui aussi, il s'est lancé comme tous les joueurs professionnels qui cherchent à se reconvertir et qui restent à chercher un petit peu dans le métier. Il s'est reconverti finalement dans le côté entraîneur. Et il n'a pas de club, alors que toi, t'en as un club. Donc
Bah
finalement,
écoute,
le
hein,
petit
s'il cherche à revenir, hein, je peux toujours, je suis à la recherche d'un
cherche un
assistant.
assistant. Alors, Sabri, si tu nous écoutes, le petit Rodolphe qui a floqué ton nom au marqueur
C'est ça.
noir
Ouais.
sur ton maillot de l'AS Monaco te recherche pour être assistant. Donc, écoute, le message est passé, Rodolphe, c'est cool. Et est-ce qu'en parlant de ça, donc, t'es tombé dedans, est-ce que t'as, toi, pris une licence pour être dans un club, jouer dans un club, ou ça s'est plutôt joué en mode avec les
Non,
amis
j'ai tout le temps joué. Dès que j'étais petit, j'ai demandé à mes parents qu'ils m'inscrivent dans le club local, donc dans mon village. Et j'ai tout le temps joué, en fait. J'ai tout le temps joué. Jusqu'à que je suis arrivé au Canada, en fait, j'avais ma licence de foot en France. Donc j'ai vraiment joué un maximum. En France, c'était surtout que je voulais tout le temps jouer. J'avais la vocation, je me disais tout le temps, oh, peut-être entraîner un jour, mais je voulais tout le temps jouer. Donc j'ai dit, oh, entraîner, on regardera ça pour plus tard. Donc j'ai joué dès mon plus jeune âge jusqu'à que je sois arrivé au Canada. Et même au Canada, quand je suis arrivé au Québec, j'ai un peu essayé de m'inscrire dans une ligue là-bas. Et j'ai fait juste une demi-saison et c'est tout. Mais j'ai vraiment joué dans un club depuis que j'étais plus petit, quoi.
Ok. Alors je vais pas te demander ton âge, hein, on fait ça propre.
35.
Ok. Bon, ben voilà, il l'a dit. Et dis-moi, donc du haut de tes 35 années, alors certes t'as pas joué ou tu joues plus forcément en club parce que maintenant t'es passé de l'autre côté de la barrière, mais quel est ton meilleur souvenir de joueur et quel est ton meilleur souvenir de joueur dans un vestiaire?
Ça, c'est, tu vois, par exemple, on en parlera peut-être plus tard, mais ça, c'est ce qui me manque un peu, le côté vestiaire ici au Canada. Comparé en France, tu le sais, en France, on a des structures propres, donc on a des vestiaires avant les matchs, on peut aller, on a le discours et tout. Ici, ça se fait rapidement. Mais en France, j'ai eu les bonnes expériences, c'est surtout quand on a, avec mon club, on a réussi à faire, je crois, un ou deux tours de Coupe de France. Et ça, franchement, c'était top parce que tu te disais, ah, si on arrive au prochain tour, on va avoir le fameux maillot, tu sais, avec Brioche Peach, je crois que c'était à l'époque. On le voulait tous, ce maillot, avec le gros sponsor Brioche Peach dessus. Donc, on en parlait toute la semaine, on envoyait des photos de, hey, regarde, on peut, peut-être si on passe ce tour-là, on va avoir le maillot des Brioches et tout. Donc, juste d'en parler, tu sais, dans les vestiaires, c'était vraiment l'expérience, juste d'être dans les vestiaires, de se retrouver à la fin à la fameuse buvette en France. Où tu sais, t'as tous les joueurs qui se retrouvent là-bas, où il y a les, où tu vois les anciens joueurs, les trophées dans le clubhouse et tout. Juste cette ambiance, en fait, c'est vraiment des gros souvenirs et ça me manque même parce que ici c'est tout est rapide, tout il y a pas vraiment de l'instant, l'instant où tu peux prendre du plaisir, où tu as le temps. Ici c'est vraiment tout doit se faire en mode rush. Donc vraiment ces instants où on était dans les vestiaires à la fin dans le clubhouse avec toute l'équipe avec le président et tout, ça manque et j'y repense des fois d'ailleurs.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, pour ceux qui nous écoutent, hein, on va rappeler que le football, on va dire le football professionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui, oui, il y a un gros vestiaire, il y a une grosse table ronde, il y a les chandails qui sont prêts à être récoltés par les joueurs professionnels. Mais pour tout ce qui est dans le circuit amateur, on n'a pas nécessairement accès, ce que tu es en train de dire, hein, on n'a pas nécessairement accès à finalement une petite salle un peu privée où il y a le coach qui va donner ses directives d'avant-match ou de milieu ou à la mi-temps ou alors la grosse fiesta ou moins de fiesta à l'issue du match. C'est ça que tu es en train de dire. Il y a une petite différence que
Ouais,
tu vois toi
exactement.
entre. Ah, OK, ouais, je comprends.
Ouais,
Donc
ici, à part quelques clubs qui sont à l'extérieur de Toronto, qui ont peut-être des clubhouses, des terrains à eux, dès que tu te rapproches de Toronto, c'est des terrains qui vont être loués à des écoles, tu vois, à la ville. Donc, c'est pas vraiment un lieu où tu peux dire, hey, après l'entraînement, après le match, on se retrouve là-bas et on va boire un coup. C'est la fin du match. OK, allons nous asseoir 5-10 minutes à côté du terrain. Et on parle, mais c'est tout, quoi. Il y a pas cette ambiance, tu sais, où on allait, on devait nettoyer les vestiaires, ceux qui perdaient les pénaltys devaient faire ça et tout. Donc c'est cette ambiance-là, je suis un peu nostalgique des fois de ça, quoi.
Ok, on va revenir là-dessus vite fait parce que bon, moi aussi j'ai joué au foot hein, quand j'étais petit et on a tous des souvenirs. Moi, je voudrais revenir sur le maillot Brioche Peach là, ça c'est je trouve ça rigolo. Pour nos auditeurs, si vous êtes familier, il y a le maillot de l'année, mettons qu'il soit bleu et rouge, ok. Juste un exemple comme ça. Et puis souvent dans l'équipe professionnelle, il y a soit un commerce. Ou alors quelqu'un qui est du coin ou du cru qui va vouloir sponsoriser pour qu'on lui fasse de la publicité sur les maillots. Ça, c'est si on a de la chance, parce que dans la majeure partie des cas, il y a zéro sponsor, il y a rien du tout. Il y a juste une couleur, les couleurs du club, avec un numéro derrière. Certains vont peut-être écrire le numéro au marqueur, comme d'autres que tu connais peut-être, ou le
Peut-être.
rafistolé. Mais l'idée, c'est ça, c'est que donc avoir ce logo-là des brioches. Ça veut dire qu'on a été un petit peu plus loin dans la compétition et qu'on du coup on va jouer sur des ou alors soit contre des équipes un peu plus professionnelles, soit qui sont beaucoup plus haut dans le classement, que ce soit district, national, international, etc. Donc le coup, l'histoire du logo, juste pour nos auditeurs, pour leur expliquer, c'est ça. C'est-à-dire que la Coupe de France, c'est une compétition qui est généralement sponsorisée par un très gros sponsor pour les deux équipes. Donc généralement sur le ventre, sur le chest, il y a le gros logo des brioches. Ça pourrait être ici, je sais pas, Choc FM par exemple, et on aurait le gros logo Choc FM sur les maillots. Donc c'est un petit peu ça que Rodolphe essayait d'expliquer. L'autre question que j'ai pour toi, Rodolphe, c'est est-ce qu'il y a un coach qui t'a inspiré quand tu étais petit, c'est une espèce de causerie d'avant-match ou alors une causerie à la mi-temps? Quelqu'un qui t'a inspiré à toujours aller chercher le Rodolphe qui était à l'intérieur de toi et te dépasser à être sur le terrain?
Pour être honnête, non, pas vraiment de ce côté-là. J'ai plus pris les expériences en fait des différents coachs que j'ai eus. Et de mon côté, j'ai toujours eu cet aspect un peu. Soit j'étais capitaine de l'équipe, ou quand je l'étais pas, j'étais le leader sur le terrain. Je parlais tout le temps, même des fois trop peut-être, mais je parlais tout le temps. Même tu vois, du côté scolaire, j'essayais toujours d'être délégué. Tu te rappelles de ce fameux truc qui veut être délégué de l'année? J'essayais tout le temps d'être le délégué, d'être un peu le leader. Donc sur le terrain, c'était pareil. Même si j'avais pas le fameux brassard de capitaine, j'étais tout le temps à parler sur le terrain avec les coéquipiers, avec l'entraîneur, pas trop avec l'arbitre pour pas prendre de carton. Mais non, pas vraiment de. Ou alors peut-être que je me rappelle pas parce que j'ai eu tellement d'entraîneurs aussi depuis que j'ai commencé à jouer au foot il y a, bien, je sais même plus combien d'années maintenant. Mais non, pas vraiment. J'ai plus eu ce côté, comme je t'ai dit là, de leader ou d'être sur le terrain et de transmettre le message en fait du coach au coéquipier en fait.
Ok, donc en étant capitaine ou en étant l'inspiration sur le terrain ou le relais du coach sur le terrain, est-ce qu'il y a des capitaines qui t'ont inspiré dans ta jeunesse? Tu parlais de Sabri Lamouchi tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont inspiré à devenir le joueur que tu es devenu?
Il y a des joueurs après, et ils n'étaient pas vraiment capitaines dans leurs équipes, tu vois. Mais je sais qu'à l'époque, c'est peut-être un peu fort, mais Roy Keane, pour ceux qui s'en rappellent, on en parle beaucoup. On dit ah, Roy Keane, pour ceux qui s'en rappellent, c'est un peu nostalgie, mais c'était ah, celui qui fait les gros tacles. Mais si on regarde un peu plus près, il a quand même joué, je sais pas combien d'années sous Sir Alex Ferguson. Ses saisons étaient magnifiques. Il n'a pas pris non plus énormément de cartons, si je me rappelle bien. Mais à chaque fois que c'est vrai que dès qu'il y avait une faute avec Roy Keane, c'était tout de suite un gros tacle. Mais jamais cette force qu'il avait, qui voulait vraiment pas se laisser faire, qui emmenait toujours l'équipe vers l'avant. Et c'était aussi un super joueur parce que si c'était juste un joueur qui taclait, il aurait jamais été sous Sir Alex Ferguson. Je sais même plus combien d'années maintenant. Je sais pas, il a dû faire au moins 7-8 ans avec Manchester United minimum. Et j'aime vraiment ce côté un peu de leader, de fighting spirit qu'il avait tout le temps sur le terrain. J'avais lu un de ses livres qu'il avait fait où il racontait sa vie à Manchester et tout. Bah, c'est un personnage, quoi. Il y a des fois des citations qu'il a mis dans son livre. Il y a que ce genre de personnage, de leader qui pouvait dire ça dans le vestiaire quand tu connais le vestiaire qu'avait Manchester United avec Alex Ferguson à l'époque et autres. Donc, ce genre de joueur, ça m'a toujours inspiré, quoi.
Ok, alors une petite information pour nos auditeurs quand même, parce que moi j'ai la chance de Rodolphe, j'ai la chance de le connaître. C'est un très très bon ami ici, et on joue au foot ensemble, n'est-ce pas? Du moins
On jouait
on a
parce
joué
que
souvent.
t'as plus de pieds maintenant.
Et Rodolphe, quand il parlait de tacler, de l'inspiration du joueur, j'étais obligé de l'amener. Rodolphe, je te vois sourire, mais je suis obligé d'en parler. Rodolphe, il
J'ai
est
une
connu un
anecdote
petit peu
aussi.
dans toi. Ouais, je sais que t'en as une. Je vois à laquelle tu vas arriver, mais c'est pas
Non,
grave.
même pas celle-là. Une autre. Mais
Ok.
fini.
Je vais finir la mienne. Rodolphe, il est connu je pense, dans toute la ville de Toronto, dans toute la francophonie. Déjà, premièrement, c'est un bon joueur. Faut lui reconnaître ça. C'est vrai que c'est un bon joueur, un bon défenseur. Il a 2 pieds, ce qui est rare pour un joueur. Je veux dire, 2 pieds. Il sait se servir de ses 2 pieds, pied droit, pied gauche. Mais Rodolphe, il est connu parce que quand on est en défense, il faut gérer un petit peu ce qui se passe, les attaques qui arrivent et autres. Mais Rodolphe, il a la vision. Il a la vision. Il va regarder. Il va savoir se mettre, se positionner. Il va savoir se placer. Puis il va essayer à chaque fois d'anticiper, mais son geste technique préféré, faut être honnête, son geste technique préféré, c'est le gros tacle bien sale. Le gros tacle bien sale, alors qu'il est capable de perdre la moitié de sa jambe sur les terrains synthétiques, ça va le brûler jusqu'au premier degré, il va perdre la moitié de sa peau, mais il s'en fiche. Il va vouloir tacler parce que c'est son geste préféré. Est-ce que je me trompe en disant ça ou pas vraiment?
Non, et puis même, tu vois, même des fois quand on dit oh, pas de tacle et tout, et ça va revenir, je vais être obligé d'en faire un, même si je sais que le match c'est amical ou autre, et ben je vais quand même le faire. Cet été, j'étais en Irlande pour passer les modules pour l'UEFA-C, et au bout d'un moment, ils demandent à des coachs, tu vois, de montrer l'exemple, et ils disent ah, oh, on a besoin de 8-10 coachs pour faire cet exercice, et les mentors, ils vont coacher. Et moi, bah, direct, j'ai dit ah, si je peux jouer, vas-y, je viens, quoi. Donc j'ai mis les crampons et tout. Et moi j'étais à fond. Tu sais, le match c'était juste un exemple, mais moi j'étais à fond. Et au bout d'un moment, je me rappelle, j'ai même fait un tacle, et le joueur adverse, l'entraîneur, il fait eh, relax. Tu sais, genre il me dit encore eh, c'est juste pour montrer un exemple et tout, pas besoin de tacler et tout. Mais moi, un match, que ça soit amical ou autre, je vais être à fond dedans. Et puis tu sais, même si je vais pas oublier, je vais dire on va me dire ne tacle pas, ne tacle pas, je vais être obligé. Au bout d'un moment, ça va être, c'est automatique en fait, ça fait partie de ça fait partie de mon caractère en gros.
Ah, je comprends. Donc, Rodolphe, il a découpé la moitié des joueurs francophones de Toronto dans tous les groupes
Voilà,
que je
donc j'ai
suis.
plus
Voilà.
d'amis.
Il n'a plus d'amis. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, blague à part, que Rodolphe, il est connu sur les terrains. Quand il arrive, il met les crampons, et ça va tacler. On le sait.
Et en même temps, je veux faire un petit paradoxe, un petit parallèle avec mes U13 et les équipes que j'ai. Je leur montre toujours en fait l'esprit que je veux sur le terrain, tu vois, parce qu'il y a des fois on dit ah, le coach il demande ça et tout, mais je le montre en fait sur le terrain. Et donc cet esprit de vraiment d'être à 100%, de tout donner, je le montre aussi à mes U13. Après, avec les U13 c'est différent. Je joue, tu vois, là par exemple, je tacle jamais avec eux, j'ai jamais taclé quand je joue avec eux, parce que j'ai peut-être ce truc de me dire ils ont que 13 ans. Donc je vais pas jouer avec la même intensité qu'avec un U17, U18 et plus. Mais en tout cas, l'intensité de vraiment quand j'essaye de prendre la balle, quand j'essaye de faire un centre, je vais donner cette intensité. Bah, je le remets en place avec eux. Tu vois, j'essaie vraiment de montrer que c'est pas juste du blabla de coach qui demande de ci et ça. Je vais le montrer sur le terrain, et je vais leur demander d'avoir cette intensité et cette envie, quoi.
Ouais, ça, je comprends ce que tu dis, et je t'avoue que comme on a joué souvent ensemble, je sais que quand on est contre toi, c'est facile de te déstabiliser parce que c'est facile de venir un petit peu chercher un petit peu tes nerfs sous la peau. Quand on joue avec toi, c'est toi qui viens nous chercher sous la peau, en fait. Tu parles trop, c'est fatigant, mais en même temps, on voit le passionné et on voit que la personne ne veut pas perdre, et c'est agréable.
Et
Anyway,
après,
j'ai
Olive,
peut-être
tu vois, je le fais pendant le match. Je vais être à 90 minutes à fond. Et à la fin du match, s'il y a eu un mauvais geste ou autre, tu sais, je vais venir et m'excuser. C'est vraiment durant le match. Je sais que je vais être à 100%. Je vais penser que au match, à la victoire et autres. Par contre, après, quand c'est fini, et après, la testostérone descend et autres, voilà, après, je redeviens gentleman, on va dire.
Ok, on parle de bonhomme et ensuite on parle de gentleman. Non, j'aime ça, c'est le style de Rodolphe que je connais, et j'avoue que, et ce qu'il dit, je dois le confirmer, je l'ai vu en vrai de mes vrais yeux.
C'est
J'ai
approuvé.
perdu 2, 3 chevilles, mais je les ai toutes retrouvées.
L'assurance santé marche bien.
Ouais, c'est ça exactement, ouais. Dis-moi, je sais que tu as une collection de maillots incroyable, un maillot
Ouais,
de
la femme
foot.
ne veut pas, mais ouais, j'ai une collection qui continue en plus, qui continue.
Elle continue la collection. Quel est déjà le maillot dont elle est plus fière? Et on va pas parler de joueurs parce que on va y revenir sur le côté joueur, mais il y a cette tendance que, et j'aimerais avoir ton avis sur aujourd'hui, les fans sont des fans de joueurs, pas forcément des fans d'équipe. Mais est-ce que toi, il y a une équipe particulièrement que tu dis, ouais, ok, c'est l'équipe du moment. Je sais que tu me parles souvent du Bayern Leverkusen. Est-ce que tu as d'autres équipes? Est-ce que tu regardes un peu ce qui se passe ici dans la ville de Toronto? C'est quoi ton style du moment?
Bah écoute, en étant entraîneur, je vais être honnête, je regarde un peu moins de matchs parce que je suis pris entre les entraînements la semaine, le match le week-end. Comme en plus, tu sais, les matchs en Europe, c'est très tôt le matin ou des fois ça tombe juste quand j'ai un match, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, j'essaie de faire l'effort de regarder les highlights quand je peux, les matchs quand je peux. Bien sûr, le Bayer Leverkusen, j'adore ce qu'ils font en ce moment, surtout quand tu sais que Xabi Alonso avait repris l'équipe qui était vraiment, je crois qu'elle était dernière ou 17e du championnat en Bundesliga. Donc le parcours quand même qu'il a fait depuis l'an dernier, c'est pas mal. J'aime bien voir la Real Sociedad. Toi qui es le supporter du PSG en face, mais je trouve que ce qu'ils font, on n'en parle pas assez en Espagne. On parle beaucoup de l'Athletic Bilbao avec que des joueurs de Bilbao et des alentours, mais la Real Sociedad, bah d'ailleurs Xabi Alonso, il vient de là-bas aussi, Unai Emery vient de la région aussi de là-bas. Donc j'aime bien aussi ce que fait
Griezmann a
la Real
commencé chez
Sociedad.
eux.
Ouais aussi, ouais, exact. Donc ce que fait la Real Sociedad, Bayer Leverkusen, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment que j'arrive à voir en Angleterre ce que fait j'ai perdu l'équipe
Brighton? Brighton ou
Brighton, j'aime bien,
Burnley?
mais Tottenham, parce que Tottenham c'est
Voilà.
toujours l'équipe qui vient de loin, qui gagne rien et tout. Ils ont perdu Harry Kane et on s'est dit oh c'est terminé. Postecoglou qui est arrivé, qui est un coach qui n'était pas trop connu non plus, on va dire, on va être honnête, le grec australien qui arrive du Celtic, on se dit oh ça va finir loin de derrière. Et je trouve il joue pas mal et même quand il perd ou autre, il garde ses principes de jeu, il va tenter, il va aller vers l'avant, il va essayer de faire gagner son équipe et ses discours aussi après match ou avant match, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Il y a vraiment une philosophie derrière ce qu'il dit. C'est pas juste du oh on a perdu les 3 points, on verra la semaine prochaine, c'est un autre match. C'est vraiment des discours assez intéressants et assez humains. Donc j'aime vraiment ce coach-là qui, j'espère, va faire quelque chose, même si on sait que la première ligue, maintenant, c'est un truc de fou parce que il y a tellement de grosses équipes. Maintenant, tu peux faire limite un top 10 des équipes parce que avant, tu avais juste le top 3, top 4. Et maintenant, tu as Brighton qui arrive, tu as Tottenham qui arrive. Maintenant, avec l'argent qu'ils ont des droits télé en Angleterre, c'est un truc de fou. Donc, il y a cette équipe-là que je suis. J'arrive des fois de voir un peu la MLS parce que c'est sur notre créneau horaire. Là, j'ai vu la dernière journée un peu avec Toronto. On va voir ce que ça donne. L'Amérique du Sud, j'essaye, mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il n'y a pas les chaînes. Donc, c'est un peu compliqué à voir, mais j'essaie toujours de voir mon Racing en Argentine. Donc voilà à peu près ce que j'essaie de voir. C'est sûr qu'à l'époque, je regardais plus l'Amérique du Sud avec le championnat au Venezuela et autres, mais on s'adapte. Il y a tellement de trucs maintenant que des fois, j'essaie aussi de faire un break parce que des fois, avec le foot, je suis 100% avec le foot. J'ai un enfant à côté et tout, donc j'étudie à côté aussi. Donc c'est un peu compliqué d'être sur tous les spots. Donc maintenant, les matchs, si j'arrive déjà à en voir un ou deux, c'est beaucoup, quoi.
Ah, je comprends. Tu parlais de la MLS et ça, on va passer sur un peu d'expérience canadienne. La MLS, est-ce que tu penses que c'est un championnat qui vaut la peine d'être regardé? Est-ce que toi qui connais le soccer, toi qui as grandi depuis ton plus jeune âge avec le foot, est-ce que Toronto, Toronto FC, c'est ce qui se fait de mieux ou est-ce que c'est ce que tu regardes parce que t'as pas le choix? Ou alors tu préfères quand même aller regarder ce qui se passe quand même encore en Europe.
Écoute, je la regarde parce que aussi, on va être franc, sur le même créneau horaire. Toronto, je regarde parce que c'est là où je suis, donc j'essaie de voir un peu comment ça se passe au niveau local. Après, le championnat, il se développe. Il y a encore beaucoup à faire, mais je trouve que ça se développe. Il y a des nouvelles équipes qui se joignent chaque année, donc ça, je trouve que c'est intéressant. Après, au niveau local, Toronto Football Club, c'est un peu compliqué. Je suis pas trop d'accord avec certaines politiques qu'ils ont fait il y a quelques années avec les joueurs, surtout les designated players qu'ils ont ramenés, vu ce qu'ils ont en plus ramené sur le terrain. Donc, je pense qu'il y a du boulot encore à faire. Je vois qu'il y a des entraîneurs qui commencent à faire leur bout de chemin avec des Français, avec bien sûr Wilfried Nancy qui a gagné l'an dernier. Dans le staff du CF Montréal, t'as trois Français, t'as deux assistants que je connais un peu, t'as l'entraîneur principal qui est un Français, Laurent Courtois. Donc, je trouve que du côté de CF Montréal, je vais peut-être aussi, malheureusement, c'est un peu l'ennemi, mais je trouve que cette année, c'est peut-être le club au Canada entre les trois qui va peut-être faire le meilleur chemin en espérant en playoff durant la fin de saison en MLS, quoi.
Donc, si je suis un peu ce que tu dis, c'est que Toronto a vécu. Alors, tu disais designated player en français, c'est des joueurs désignés. Pour expliquer à nos auditeurs, un joueur désigné, c'est un joueur qui peut arriver et signer dans l'équipe et il n'y a pas de minimum de salaire. Donc, il vient et il signe un salaire. Il y en a un par année. C'est un joueur désigné. On lui donne le salaire qui a été négocié entre les
Il y en
deux,
a
mais il n'y a pas
trois
de
non
minimum.
par équipe, je crois.
Ouais, c'est ça.
Trois maximum.
C'est ça. Et donc, pour le coup, les joueurs désignés de Toronto, on les connaît, hein, c'est Lorenzo Insigne, c'est Fede Bernardeschi, le troisième m'échappe.
Moi aussi, le troisième m'échappe.
Mais les deux Italiens sont les deux grosses superstars de la ville. Ils ont signé un petit Français, Toronto. Je ne sais pas si tu le connais ou si tu en as entendu parler. Il a signé il y a quelques semaines.
Oui, le
Il nous vient
défenseur là de
d'Evreux.
Sheffield.
Ouais, exactement, le défenseur de Sheffield, Nixon Gomis. Qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as déjà vu jouer? T'as des attentes par rapport à ça?
Non, écoute, je l'ai pas vu jouer. Je sais qu'il était avant, il vient des U21, je crois, de Sheffield en
C'est
Angleterre.
ça.
Donc je pense que ça peut aider parce que c'est un championnat quand même assez physique, même si c'est pas la première ligue. Donc je pense que ça va les aider. Puis on connaît les joueurs français. Ça va être techniquement, ça va être quand même, je pense, pas mal. Physique, ça va être aussi, je pense, très très bien. Donc, moi, je suis content de voir un Français en MLS pour remplacer un peu Quentin Weisberg et notre ami et ton ami
Chris.
Chris. Il y a un autre Français qui a signé du côté de York Football Club hier, un gardien qui a, je crois, 30, 31 ans, je crois, quelque chose comme ça, un Français aussi. Je sais pas où il jouait avant, je crois en Belgique, mais ça, c'est pour la Canadienne Première Ligue. Donc c'est pas mal qu'il y ait quelques francophones et français qui arrivent à Toronto. Mais on verra. Écoute, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu ça et j'ai trouvé ça super bien qu'il y ait un Français qui arrive ici.
Alors, tu viens de parler de York FC. Je pense que c'est intéressant de parler de ça. C'est donc le Canada va être le pays hôte de la Coupe du Monde en 2026. Pour être un pays hôte, le Canada doit se conformer à un certain nombre de règles, règles qui sont très strictes pour être un des pays hôtes. Donc le pays, quand je dis un des pays hôtes, c'est parce que ça va se passer entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Toronto a la chance d'accueillir un certain nombre de matchs dans la ville. Donc ça va être génial. En revanche, Toronto se devait d'avoir un championnat canadien exclusif, donc championnat canadien vraiment refermé. Et je parle pas de la MLS parce que la MLS c'est vraiment Amérique du Nord, donc pas forcément Amérique du Nord. Pardon, je m'excuse. C'est Canada et États-Unis. Donc il y a un championnat canadien qui existe. Et tu parlais donc de York FC. Et j'aime ça qu'on parle de York FC parce que toi et moi on est allés à un certain nombre de matchs tous les deux. C'est quoi ton ressenti un petit peu? On sait que le gros, en tout cas sur la ligue qu'on connaît, Hamilton est probablement le leader incontesté depuis quelques années de cette ligue. Mais est-ce que cette année, York peut tirer un petit peu son épingle du jeu et œuvrer un petit peu dans le pays?
Bah écoute, je me rappelle qu'on était allé voir le match. Ils s'étaient pris, je crois, 2 ou 3-0. On s'était dit, oh, c'est fini et tout. Et je crois qu'après ce match-là, en fait, ils ont commencé, je me rappelle, à vraiment gagner des matchs. À la fin, je crois qu'ils finissent sur 5 ou 6 victoires d'affilée. Ils ont fini vraiment fort la saison dernière. Je crois qu'ils finissent en playoff d'ailleurs pour la Canadienne Première Ligue. Je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu cette année, à voir selon les joueurs qu'ils ont ramenés, qu'ils ont perdus depuis l'an dernier. C'est encore un jeune championnat. En plus, ils ont été rachetés par un groupe d'investisseurs mexicains cette année, il y a quelques mois. Je sais qu'ils essaient de ramener des joueurs mexicains. Je crois qu'ils en ont fait signer quelques-uns, que ce soit peut-être en équipe première ou pour la réserve. Donc à voir. Ça aussi, pour la Canadienne Première Ligue, j'espère aussi de la stabilité. Parce que y avait le Edmonton Football Club qui a fermé il y a quelques années de ça, ou l'an dernier, ou il y a 2 ans, parce qu'il y a pas, il y avait pas de revenus, ça marchait pas là-bas. Donc j'espère juste que la Canadian Premier League, ils vont continuer à ramener des équipes, à créer des nouvelles équipes, comme il y en a une en Colombie-Britannique. C'est quoi de nouveau le I, Pacific Football Club, je crois, il
Ouais,
s'appelle.
Pacifique,
C'est
ouais.
ça. Donc j'espère de ce côté-là qu'ils vont continuer à en créer. Je vois dans les stades qu'il y a, selon les stades en fait, York, le problème c'est qu'ils se font cannibaliser les supporters avec Toronto. C'est trop proche de Toronto. C'est un peu compliqué pour eux encore de ce côté-là. Je sais que j'en avais parlé avec un des dirigeants à l'époque du York Football Club. C'est pas Hamilton où tu es à 80 km de Toronto où tu sais tu peux avoir une fanbase. York, c'est dans Toronto, même si c'est au nord, ça reste quand même des supporters du Toronto Football Club. Donc, je sais qu'on était allé au stade, toi et moi, c'était un peu compliqué. La plupart des fans qui étaient là-bas, c'était des écoles de foot qui étaient dont les billets avaient été distribués gratuitement. Et je trouve ça bien, par contre, qu'il y ait beaucoup de clubs de soccer locaux qui sont invités par le York Football Club, qu'ils arrivent à développer ça. Mais après, c'est compliqué. T'as la MLS qui cannibalise trois grandes villes au Canada. Au Québec, t'as toujours pas d'équipe pour la Canadian Premier League. Je trouve ça fou quand même. Alors que c'est la deuxième ville la plus importante au Canada et autres. J'espère qu'on va enfin voir une équipe basée au Québec dans quelques mois ou quelques années. Même pour la Coupe du Monde, on n'a pas de match au Québec. Donc, on verra quoi. Mais en tout cas, c'est cool de voir une ligue professionnelle autre que la MLS au Canada qui se développe, quoi.
Ouais, non, c'est vrai. Alors, le York United, puisqu'on en parlait, ils sont sur le terrain de l'université de York. Donc ça, c'est là où ils jouent. Les installations sont somme toute quand même relativement sympathiques. Grand parking, si vous avez un jour l'occasion de pouvoir aller regarder un match, l'ambiance est vraiment sympathique. C'est pas bmophile, on s'entend, d'accord, mais la capacité
C'est
du stade,
sympa, c'est
elle est très en
simple.
dessous. Ouais,
Ouais,
voilà,
c'est pas
c'est très
cher.
modeste, mais très modeste et très très bien. Est-ce que aujourd'hui t'as ton objectif de coach, et on va revenir un peu sur la MLS dans quelques minutes, mais est-ce que ton objectif de coach, c'est, ou la fierté d'un coach que tu es, ce serait d'arriver un jour à avoir un joueur qui perce, ou un joueur que tu as coaché qui perce un petit peu et qui se retrouve dans une équipe plus ou moins professionnelle?
Ouais, clairement. Déjà, l'objectif, c'est passer les diplômes. Ça prendra du temps parce que c'est pas comme un travail dans une office où tu dis ah tu peux aller de cet office, de cette entreprise à une autre entreprise en un claquement de doigts. C'est un long chemin. Moi, je viens de débuter aussi. Ça fait que 3 ans, on va dire grosso modo, que je coach à 100%. Mais j'ai déjà vu des joueurs que j'avais il y a un an et demi, donc des 2006, donc des U16, U17. Et je me rappelle de ce joueur-là que je le forçais. Ses parents étaient entre le foot et le hockey sur glace, et je leur disais non, non, votre fils, il a le physique, il a le talent, il a l'esprit pour vraiment continuer dans le football. Et il me disait ah, vous êtes sûr et tout. Je pense qu'il va peut-être aller quand même dans le hockey. Je disais non, non, faut vraiment qu'il se focus maintenant à 100% dans le football s'il veut aller loin. Et il y a quelques mois, j'ai vu qu'il a posté sur les réseaux sociaux une photo où l'université de Dalhousie, donc c'est quoi, c'est Halifax, je pense,
Ouais.
le sélectionnait pour son équipe universitaire. Donc j'étais vraiment content. Je l'ai tout de suite
Wow.
envoyé un message. J'ai envoyé un message à son père parce que son père, la petite anecdote, c'est que il m'avait invité pour voir le match de l'équipe canadienne pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc c'était le match Canada-Jamaïque au BMO Field. Et c'était là-bas qu'on en avait parlé avec son fils, et je l'ai poussé vraiment à se concentrer à 100% sur le football. Donc j'ai déjà cet exemple, mais après ouais, si je peux en amener quelques-uns dans quelques années dans des équipes universitaires, que ça soit au Canada ou aux États-Unis, et voire plus, bah ça serait génial quoi.
Ouais, parce que pour les auditeurs, on leur explique que si jamais on est repéré pour une université ou une école, donc il y a deux choses qui peuvent arriver. Premièrement, il y a la bourse. On est payé pour jouer, ou vient te chercher parce que tu as un talent, donc tu es payé pour ça ou par le club. Et ensuite, ça peut t'ouvrir la porte aux équipes professionnelles, donc les équipes de la draft, qui pouvaient être visibles et venir recruter un petit peu le vivier de jeunes joueurs et de jeunes talents. C'est comme ça que Ralph Prisot avait commencé, puisqu'il avait commencé, il avait fait ses classes dans les écoles francophones de la ville de Toronto. Puis il a été ensuite à l'académie du Toronto FC. C'était une petite pépite du club. Il a joué dans l'équipe numéro 1, et ensuite Ralph est parti du côté du Colorado. J'ai un peu perdu le fil, savoir où est-ce qu'il est aujourd'hui, mais pour moi, il était parti du côté des Colorado Rapids lors d'une transaction. Mais c'est bien de voir que ce type de joueur est Toi, ta fierté à toi, c'est de prendre un joueur et de le continuer à ce qu'il reste motivé. Déjà, premièrement, lui donner quelque chose en termes de talent, lui transmettre quelque chose en termes de talent, lui transmettre les possibilités ou lui faire comprendre les possibilités que le soccer pourrait avoir au Canada. Et pourquoi pas ce qu'il en fasse, qu'il puisse vivre de sa passion.
Je crois
Puisqu'on
qu'il est
parle
toujours là-bas
du
d'ailleurs. Je crois qu'il
à
est toujours
au
au
Colorado.
Colorado. Et le troisième joueur désigné, je crois que c'est Jonathan Osorio,
Ah,
pour
Osorio,
tout.
ouais, ben, le capitaine. Le capitaine. Regarde, tu me tends une perche incroyable. Donc, Toronto FC, nouveau coach. Il a coaché les équipes nationales, féminines et masculines. C'est le coach qui a emmené cette équipe à la Coupe du Monde. Malheureusement, la Coupe du Monde, ben, bien qu'il y ait quand même beaucoup de talent dans cette équipe du Canada et que pour la première fois qu'ils y revenaient depuis plus de 30 ans, ils n'ont pas démérité ou pas. Bon, ça a pas été le Qatar, quoi. Je m'excuse pour tout pour le Qatar, mais bon, il y a quand même une
Je trouve
prestation du
ils ont
football
bien
canadien.
fait.
Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu penses que, tu sais, avec des Jonathan David, avec des Alphonso Davies, alors c'est facile de parler que de ces deux-là. Mais est-ce que tu penses que c'est aussi le rôle ou leur rôle d'ambassadeur de faire développer un petit peu le soccer et que le coach qui les a emmenés ou qui les a emmenés avec eux et qui les a fait grandir va aussi faire quelque chose de plutôt sympathique avec Toronto FC qui démarre de très très bas?
Bah, tu viens de le dire, il démarre de très très bas. Va falloir, je pense, remettre des têtes à l'endroit. On aime bien dire cette expression dans le foot, mais il y a beaucoup de choses à faire cette année-là, cette année qu'on parle là où il vient d'arriver. Je pense que c'est, j'attends rien de Toronto en parenthèse parce qu'il y a vraiment tout à reconstruire. Quand on a vu la saison dernière, le résultat, bah, je sais même pas si on peut appeler ça un résultat, mais bref, vu la saison dernière, je pense que cette année c'est plus du côté mental qu'il faut remettre ça d'aplomb, faire venir des joueurs. On a parlé du jeune défenseur français qui arrive. Je sais qu'ils ont recruté d'autres joueurs. Il y a un défenseur de l'Honduras, je crois, qui a fait sa première, la Flores, contre Cincinnati. Ça a été pas mal du tout. Donc, je pense que cette saison, écoute,
Un
pour
Irlandais
moi,
qui est arrivé aussi, un
ouais,
international irlandais qui a rejoint le
exact.
club.
Je pense que cette saison, s'ils arrivent à être au milieu de tableau déjà et peut-être à avoir cette, c'est quoi, 8e place pour les playoffs, je crois que c'est.
Pour les playoffs, ouais,
Huitième
c'est ça.
place. S'ils arrivent déjà à avoir une place pour les playoffs, ça sera déjà énorme parce qu'il y a énormément à reconstruire. Après, bah, il y a les fameux joueurs désignés. Bernardeschi, je sais que on peut compter sur lui, mais moi c'est plus Insigne. J'ai vu l'interview il y a pas longtemps là de Herrmann sur Insigne disant que il faut le gérer comme une Ferrari. Est-ce que ça veut dire que il va jouer deux matchs et après pendant 4 semaines il va pas être disponible parce que soit il est blessé, soit il veut pas jouer sur du synthétique ou d'autres excuses? J'espère qu'il va bien le gérer parce que si c'est pour qu'il joue 3 matchs dans l'année et vu le salaire qu'il a, moi je me dis que c'est valait mieux le vendre pour prendre un autre joueur désigné qui puisse jouer tous les matchs, tu vois, parce qu'avec ce genre de discours, j'ai un peu peur maintenant que ça soit un peu une diva et qu'on lui dise tiens, joue ce match-là et puis le prochain ça sera que dans 1 ou 2 mois parce que on va vraiment être sûr que tu te blesses pas ou que mentalement tu sois bien quoi. Donc j'attends pas énormément de Toronto cette année, mais c'est plus l'an prochain où Herrmann, il aura eu une année complète pour travailler le mental et la partie terrain, ce qu'il veut, faire venir les joueurs qu'il veut, et on verra plus l'an prochain, quoi.
Moi, tu vois, regarde, tu parles de ça. Moi, j'ai un problème avec cette attitude de coach. Vous le gérez comme une Ferrari. Je pense que toi, t'es coach, hein, t'as 11 joueurs. Tu sais que t'as des joueurs qui sont plus forts que d'autres. Tu le sais, mais tu vas pas le dire devant tout le monde. Mais quand tu dis ça en conférence de presse ou quand tu dis ça dans une interview en disant qu'il y a quelqu'un qui est une Ferrari, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre d'à côté, c'est quoi? C'est un Chevrolet? C'est une Toyota? Moi, j'ai un problème avec ce genre de discours, en fait.
Ouais, pareil. La même chose avec en plus c'est le joueur désigné. Donc niveau salaire, c'est le plus gros salaire du club et je crois encore de la ligue.
Toute
Je
la
crois que ça.
MLS, ouais.
Ouais. Peut-être Messi doit être
Ah,
maintenant
Messi, il
avec
est
les
un peu à part,
partenariats.
mais
Ouais.
ouais.
Ok, Messi c'est notre galaxie, mais je veux dire c'est le plus gros salaire. Tu peux pas de peine, tu peux pas te permettre de dire ça et après au nombre de matchs et l'an dernier on était allé voir un match, je sais pas si c'était ensemble, non c'était avec le club, il m'avait invité Toronto High Park qui nous avait donné des billets et donc j'étais limite en face de lui parce que c'était vraiment proche du COP Et tu vois que l'investissement, il n'était pas là, quoi. Tu sais, il courait quand la balle était près de lui, mais pour les replis défensifs, par exemple, il n'y avait rien, quoi. Il attendait que les autres joueurs derrière lui ramènent la balle pour faire quelque chose, tu vois. Donc j'ai peur que cette année, ça soit un peu pareil, on verra les prochains matchs. Mais comme tu l'as dit, je suis un peu sur la même longueur d'onde que toi. J'aime pas ce genre de discours, que ça soit devant la presse et en off avec lui, quoi, en disant les autres joueurs faites tout, et puis lui, bah, on lui donne le ballon et puis on voit ce qu'il peut faire, quoi.
Ouais, ça fait très très coach à l'ancienne, hein. C'est vas-y, tape devant, Insigné, mets-la au fond et voilà.
Et c'est un
Je
peu
vois aussi.
bizarre venant d'Herdman, tu vois, parce que c'est quand même un coach qui, vu ce qu'il a fait dans le passé avec l'équipe nationale et autres, il n'a jamais eu trop ce discours. C'était vraiment, tu sais, 11 guerriers, on va se battre, on va tout donner et tout. Il n'y avait pas de 10 plus 1. Là, j'ai l'impression que ça part un peu là-dedans, quoi.
À suivre les résultats de ton FC. Moi, je t'avouerai que je suis un peu comme toi. On se souvient tous du titre en 2017. Hein, on soulève la coupe, on est tous contents. La ville vibre. La vibre, peut-être même découvre qu'il y a une équipe de soccer
Ouais, exact.
parce que c'est un peu à part par rapport à toutes les autres clubs de la ville. Mais le club depuis ça est en, je vais pas dire en perdition, mais bon, on a quand même gagné le trophée de la cuillère en bois l'année dernière. Donc, on a quand même gagné
La
quelque chose.
retrophée.
Un beau trophée, voilà. Celui-là, il ira dans la vitrine, ou pas d'ailleurs. Mais pour le coup, ouais, beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance sur ce club. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je partage ton avis sur le côté un peu reconstruction. Et le coach, pour moi, je pense que c'est le bon coach pour Toronto. Après Bradley, qui avait été ramené pour donner quelque chose d'autre à la ville et au club, qui n'a pas vraiment réussi à percer, à part les résultats qu'on connaît. Donc j'ai hâte de voir les résultats. Et je le disais dans une de mes précédentes émissions, mais le duo des Italiens, avec le statut international qu'ils ont, avec le talent qu'ils ont, avec les trophées et l'expérience qu'ils ont accumulée au fil du temps. Si on doit comparer ces deux joueurs-là au reste du groupe, que ce soit même le capitaine Osorio, il n'a pas forcément gagné beaucoup de choses avec soit son équipe nationale comparativement aux deux Italiens, ou même la jeune génération qui commence à pousser, ou même le petit jeune français Gomis qui nous vient d'Évreux. Ils ont un rôle de joueur, ils ont un rôle de leader, ils ont un rôle d'ambassadeur. Donc j'espère qu'on va réussir à élever et que le coach va réussir à élever cette mentalité avec ces deux joueurs-là, parce que ce serait dommage de ne pas y arriver.
Et pour ajouter, maintenant que tu parles de ça, tu sais, il y avait un troisième Italien et j'ai juste un peu peur de ce côté-là. C'est Herman, je sais qu'il va peut-être faire son boulot, c'est plus peut-être au niveau de l'état-major, tu sais, de la direction sportive. Quand Crichito, c'était ça, hein, Domenico Crichito était là, ils l'ont fait venir, gros salaire quand même. Il a joué ses matchs, il est parti, il a fait, oh, je pars parce que pour raison personnelle, j'ai arrêté le foot et il a signé en Italie dans un autre club. Je crois qu'il a re-signé à la Sampdoria.
Ouais, mais ça c'est il y a certains dans le foot, on le sait, hein, c'est des mercenaires, et malheureusement c'est sûr que ça arrive, et c'est dommage que Toronto se soit fait avoir sur le sujet. Donc écoute, à suivre pour Toronto. Est-ce que tu regardes un petit peu de foot féminin ou pas vraiment, ou
Pour être
quand
honnête,
même
vu l'agenda
non?
que j'ai. Si c'est pas une compétition vraiment internationale, j'ai un peu regardé la dernière Coupe du Monde, quelques matchs par-ci par-là, quand c'était en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais sinon, pour être honnête, non, j'ai vu l'agenda que j'ai déjà avec les matchs que je dois coacher, les analyses, les trucs à côté, c'est impossible, non.
Ok. Non, je te disais ça parce que évidemment que le foot au Canada, du côté féminine, c'est quand même très sérieux.
Ouais.
C'est peut-être même plus sérieux que chez les hommes. Alors c'est peut-être en train de s'égaler un petit peu, mais il y a quand même de belles espoirs et de belles choses à faire dans le football féminin. À Madame Sinclair, on va l'appeler Madame Sinclair, qui arrête sa carrière, c'est après tout ce qu'elle a fait pour le soccer ici au Canada. Je trouve ça cool. Donc écoute, tu regardes pas le football féminin, on va passer à un autre sujet, mais je sais que tu es intéressé par le football, donc je voulais un peu ton avis. Est-ce que Sinclair, ça peut être un modèle dans ta vie de tous les jours par rapport à tout ce qu'elle peut représenter au Canada?
Après, modèle, c'est clair, parce que quand on parle de soccer, c'est côté masculin, bah, il y a bien sûr Jonathan Davis qui est vraiment la figure et autres. Mais c'est vrai que côté féminin, c'est bien qu'il y ait aussi un modèle. Maintenant qu'elle est terminée, j'espère vraiment qu'elle va continuer à promouvoir le soccer et faire partie intégrante, tu sais, par exemple, de la Fédération canadienne de soccer. Pour vraiment avoir son expérience, son vécu, pas juste sur le terrain, mais maintenant en dehors, ce qu'elle peut apporter, tu vois, que ça soit au niveau technique, que ça soit au niveau des entraîneurs, peut-être qu'elle a son mot à dire, comment faire évoluer le soccer. Elle a fait énormément de clubs à l'international, donc vraiment, si elle peut amener cette expérience, je pense que ça soit bénéfique. Ça peut être bénéfique, pas juste pour les féminines, mais ça peut peut-être aussi être bien pour les masculins, parce que la Fédération canadienne a un peu quelques problèmes en ce moment au niveau de sa structure et du personnel. Donc, si elle peut amener ce leadership, ça peut être que bénéfique pour les deux, quoi.
Ouais, top. Ok, ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. Alphonso Davies, puisqu'on en a parlé, il est pressenti pour signer au Real Madrid. Petite rumeur du moment. Donc, on verra si ça se confirme. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne signature de voir Alphonso Davies quitter le Bayern Munich et aller du côté des Galacticos 2.0?
Bah écoute, premièrement, oui, parce que vu au niveau de la visibilité, on va encore plus parler de lui, donc plus parler peut-être du football canadien, plus voir de maillots de Jonathan Davis et autres joueurs dans la rue ici. On verra pas que des maillots de hockey ou autre. Donc, point de vue de la visibilité, top, parce que le Real Madrid, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et deuxièmement, vu ce que le Real Madrid prépare comme équipe l'an prochain, et le Bayern Munich, c'est pas trop ça en ce moment. Même s'ils vont changer d'entraîneur à la fin de l'année, il y aura un temps de reconstruction. Quand tu vois l'équipe que, comme tu l'as dit, Galactique 2.0, ce qu'ils vont refaire, je pense, avec Mbappé qui va arriver, si tu as Davis qui arrive, vu déjà avec les joueurs qu'ils ont au Real cette année, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo, c'est
Ouais,
que bénéfique pour eux, quoi. Tu peux pas dire non, quoi.
c'est clair. Et à suivre, Alphonso Davies, comme je disais, c'est une rumeur de vestiaire. On verra si c'est confirmé. Écoute, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de toi. T'as un parcours un peu atypique. Donc, tu le disais un peu tout à l'heure, tu parlais de ton rôle de sportif à toi. J'ai découvert le foot avec mon maillot de Sabri Lamouchi, puis il y a eu un déclic. Tu as voulu partir du côté coach. Qu'est-ce qui s'est passé ou comment tout ça s'est venu? C'est quoi ton processus?
On va dire grosso modo, le Covid a malheureusement, heureusement, m'a aidé de ce côté-là. J'avais eu quelques expériences de coach par-ci par-là. Je me rappelle à Montréal, j'avais aidé juste des U7 féminines, mais c'était, tu vois, des U7, tu coaches pas vraiment. C'est plus en parenthèse de la garderie. Donc j'avais aidé un peu par-ci par-là. J'avais eu quelques expériences en tant qu'assistant ou autre. Et quand le Covid est arrivé, bah bien sûr, on a tous arrêté de jouer au foot. Donc on était tout le temps à la maison. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à un peu lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube, sur des coachs et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, si ça dure plus de 5 6 mois, je vais peut-être commencer vraiment à me poser des questions et à me dire, OK, on continuera de jouer au foot par-ci par-là, comme on le fait le samedi matin avec la communauté francophone. Mais je vais peut-être maintenant m'axer plus sur le côté coaching et passer des diplômes. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé ça il y a maintenant 3 ans. J'ai commencé avec la Fédération de l'Ontario Soccer. Donc avec différents diplômes jusqu'à la licence C pour l'instant. Et il y a quelques mois, en contrepartie, j'ai commencé aussi à faire l'UFAC avec la Fédération de football irlandaise. Donc deux, on va dire deux axes différents, parce qu'on va pas se mentir, ce que demande l'UEFA, les diplômes de football en Europe, au niveau du travail et autres, c'est quand même autre chose. Donc j'ai voulu le faire, j'ai voulu sortir de ma zone de confort parce que tout est en anglais. Donc tu sais, en tant que français, c'est un autre vocabulaire. Il y a des mots que à l'époque je traduisais en anglais et les joueurs me regardaient, ils me disaient, mais il est fou ce coach, ça veut rien dire. Puis là, je leur disais, call in, call out, tu sais, pour le fameux, je leur montrais des vidéos d'Mbappé pour le fameux, en français, tu vois, maintenant je perds mon français, appel contre appel. Et moi, je faisais juste la traduction en gros, call in, call out. Et les mecs me regardaient, les joueurs disaient, mais lui, il a un problème, ça veut rien dire. Et donc je leur disais, bah vas-y, call in, call out. Ils disaient, yes, coach. Ils le faisaient pas. Je leur ai montré la vidéo. Et après, ils disent, ah, ok, non, this is checking, check out. Et je faisais, Tu vois? Donc je prenais mes notes aussi parce que c'est complètement différent le vocabulaire pour coacher en français et en anglais. C'est totalement différent. Tu peux pas juste traduire une phrase et dire ouais, c'est bon, vas-y, fais-le maintenant sur le terrain. C'est totalement différent. Donc j'ai voulu vraiment sortir de ma zone de confort. En même temps, j'essaye d'étudier la psychologie dans le sport avec l'université ici de Metropolitan University. Donc j'ai des cours du soir à faire. À côté, j'essaie de passer un diplôme avec le FC Barcelone pendant un an. C'est vraiment des modules chaque mois qui sont spécifiques à par exemple, le pressing haut. Le mois prochain, c'est un module qui est spécifique à la data. Le mois d'après, c'est un module spécifique à la partie défense et jouer depuis l'arrière. Donc j'essaie un peu d'être sur tous les créneaux, malgré ma situation avec un enfant et un travail durant la journée. Mais je sais où je veux aller. Et je sais que ça prendra du temps parce que je suis un jeune coach, comme je l'ai dit, j'ai commencé ça depuis 3 ans, puis le Covid en gros. Mais je sais où je veux aller, donc je sais que je vais y arriver, mais ça prendra le temps qu'il faut et voilà quoi.
Est-ce que tu es le futur Will Steele ou est-ce que tu es le futur Julian Nagelsmann ou et on te voit
Ils
sur
sont en
des
avance
équipes
sur
un peu comme
moi.
ça?
Ils sont en avance sur moi, mais c'est marrant parce que Will Steele, après, c'est l'image qu'il a de, oh, il a fait Football Manager, il est coach, il a joué un peu à Football Manager et bien sûr, il a passé ses diplômes à côté, mais ce côté Football Manager, je l'ai eu un peu moins maintenant, mais je sais qu'à l'époque, j'avais un ami en France, en Alsace, il avait son PC parce qu'il était bien plus puissant que moi. On faisait une partie à deux. Et pendant toute la journée, même la nuit, on jouait 1 à 2. Il avait son équipe, je me rappelle, il prenait le FC Valence, je prenais le Real Madrid en Espagne. Et on se faisait cette ligue pendant toute la journée, voire la nuit. On finissait à 2, 3 heures du matin et on faisait des ligues de football manager toute la journée et même la nuit. Donc, ce côté de football manager, je l'ai. Mais après, tu peux pas juste dire, ah, je suis pas un football manager. J'ai gagné 3 championnats avec une équipe qui a commencé en 3e division suédoise. Tu vois, c'est une part, il y a la part de l'intelligence artificielle aussi. Donc, tu peux pas non plus juste dire sur le CV, hey, je suis fort, hein, j'ai joué à Football Manager.
Ouais, pour les auditeurs, Football Manager, c'est un classique, c'est un jeu, c'est un
Le
jeu
top.
de foot. C'est probablement la référence où on
Ouais,
prend
pour
une
manager,
équipe, on
ouais.
est coach et voilà, c'est ça. Tu manages une équipe du début jusqu'à la fin, tu fais les
Tu fais tous
remplacements, tu
les
fais les
aspects.
coachs, tu fais tes équipes, tu fais tous les aspects d'un coach qui pourrait faire, mais virtuel. Tous les joueurs professionnels jouent à Football Manager, qu'on voit notamment pour ceux qui connaissent Antoine Griezmann qui joue très très souvent à Football
Dembélé.
Manager. Ouais, Ousmane Dembélé qui joue à Football Manager. Et je mentionnais Will Steele parce que Will Steele, c'est un coach qui était inconnu de toute la planète. Et il a eu le poste qu'il a eu aujourd'hui d'entraîneur-chef de l'équipe de Reims, donc le Stade de Reims, parce qu'il était très très fort à Football Manager. Bon, comme tu l'as dit, il a fait aussi ses diplômes à côté, mais
Et
il
il a
s'est fait
aussi un peu de
repérer.
chance.
Ouais,
Et
ben.
Olivier, comme dans tous les secteurs, mais je pense qu'au football aussi, tu peux être un super coach, mais il faut être là au bon endroit, au bon moment aussi.
C'est sûr.
Avant, il était l'assistant de Garcia, qui est parti pour raisons personnelles, et ils se sont dit, bah, tu sais quoi, en attendant qu'on trouve un nouveau coach, Will Steele, est-ce que tu peux faire prendre pour les 5, 6 derniers mois de la saison, tu peux être l'entraîneur en chef. Donc il a eu aussi cette chance d'être là au bon moment, au bon endroit, et ça a bien marché pour lui et ça continue de bien marcher pour lui cette année, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce qu'on peut te souhaiter d'être au bon moment, au bon endroit? Est-ce que tu es au bon moment, au bon endroit en ce moment? Puisque tu parles de l'Irlande, tu parles du FC Barcelone, tu
Ouais.
parles des 2011, tu parles de Toronto High Park, tu parles de plein de choses. Mais c'est quoi ton objectif? Là, ta fin de carrière, Pep Guardiola, là, c'est quoi ton goal?
L'objectif, coacher une équipe professionnelle. Ça, c'est l'objectif. Je sais que ça
Okay.
prendra du temps. Faut être patient. Des fois, je ne le suis pas. C'est peut-être un peu mon côté négatif, des fois, où je veux tout tout de suite. Mais en tout cas, si l'objectif, c'est vraiment, je me dis pas dans 5 ans, il faut que je sois entraîneur d'une équipe professionnelle. Ça va venir quand ça viendra. Je crois beaucoup au destin. Donc, ça viendra dans 2 ans, peut-être dans 10 ans. Il y a des coachs qui se sont fait reconnaître, qui ont eu du succès quand ils ont eu 50 ans, 60 ans. Donc, je sais pas vraiment, mais je vais y aller étape par étape, passer mes diplômes, avoir d'expérience de plus en plus sur le terrain, trouver d'autres clubs, voir ce que je peux faire au niveau local parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire, ici au Canada. Ça se développe énormément avec la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, c'est un sport, comme tu l'as dit, qui est pas comme le hockey, comme le baseball, comme le basketball, comme le foot américain. Donc il y a énormément à faire ici. il y a des grosses communautés d'immigration, donc ils sont vraiment intéressés de jouer, plus les Canadiens qui commencent petit à petit aussi à vouloir s'intéresser au football. Donc je pense que l'avenir est vraiment ici ou aux États-Unis, et puis on verra ce que l'avenir nous réserve, quoi.
Ok, cool. Écoute, merci beaucoup de t'être joint à nous pour cette émission Le Vestiaire sur Choc FM 105.1. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Je sais que tu vas nous écouter. Tu continueras à nous écouter sur ton chemin pour aller à la station. Donc, on va faire un petit appel à la TTC pour qu'ils mettent un petit peu plus de réseau entre les deux stations par lesquelles tu passes. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. Pour tous ceux qui veulent avoir un peu plus de nouvelles, Rodolphe, il est coach. Vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux. Il fait que du coaching, que du coaching, que du coaching. Il pose que des choses sur de la motivation et du sport. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Rodolphe. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. En tout cas, pour ce qui me concerne, le vestiaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous laisse avec Fragnol et on se reparle très, très vite la semaine prochaine. À bientôt, les amis, et merci, Rodolphe.
Ciao tout le monde.